Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. L'entente parfaite entre Emmanuel Macron et Giuseppe Conte, les deux hommes se sont entretenus cet après-midi à l'Élysée et à l'issue de leur conférence de presse, ils semblent effectivement très proches, en tout cas bien plus que dans le courant de la semaine, notamment sur les questions migratoires, analyse à suivre de Marie-Pierre Véraud. Nouveau mouvement dans le cadre du conflit commercial entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump annonce vouloir appliquer 25% de droits supplémentaires sur 50 milliards de dollars d'importation de produits chinois. La Chine réplique immédiatement sur le même mode. Explication dans ce journal depuis Washington et analyse de Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE. En France, en marge de la grève à la SNCF, réunion cet après-midi au ministère des Transports autour de la question de la future convention collective amenée à remplacer le statut de cheminot suivi d'Eva Jednak. Et puis l'enquête de cette édition sur de récents ratés dans le lancement de missiles français, c'était en Syrie. Éclairage de Nathalie Hernandez du service investigation de Radio France à la fin de ce journal. Giuseppe Conte est ferme sur l'immigration, comme moi. Emmanuel Macron a affiché sa proximité tout à l'heure avec le chef du gouvernement italien qu'il recevait pour un déjeuner de travail à l'Élysée. Nos relations sont excellentes, a abondé le président du Conseil italien. Et les deux hommes ont finalement affirmé leur volonté de renforcer leur coopération, notamment sur les questions migratoires. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir.
La rencontre a eu lieu quelques jours seulement après une vive polémique entre la France et l'Italie autour du destin du navire humanitaire l'Aquarius en Méditerranée. Finalement, la polémique est éteinte, l'entente est cordiale.
On peut le dire, en effet, on s'est dit du cher ami Giuseppe, cher Emmanuel, tout le monde se tapait dans le dos avec de grands sourires. Et ils ont partagé une idée assez controversée d'ailleurs, celle d'installer des centres européens de l'asile dans les pays d'origine et de transit en Afrique, donc, pour mieux prévenir ces arrivées par la mer et avoir une meilleure réponse humanitaire, explique le président français, car ajoute-t-il, le drame ne commence pas quand le bateau arrive. Il faut, renchérit Giuseppe Conte, prévenir ces voyages de la mort. De quoi s'agit-il? Eh bien, en quelque sorte, de repousser les frontières de l'Europe sur le continent africain, tout comme cela fut fait avec la Turquie, de faire en sorte que les migrants soient arrêtés dès le départ ou en chemin, si l'on prend en compte les pays de transit. Leur demande d'asile serait alors examinée, et ceux qui ne seraient pas éligibles, une grande majorité de ceux qui traversent, assure Emmanuel Macron, pourraient ainsi être empêchés d'entreprendre ou de poursuivre leur voyage. Le président français a évoqué également des missions des agents français, donc de l'OFPRA, pour aller traiter sur place ces demandes d'asile. Cela pose plusieurs questions, bien sûr, notamment celle des conditions dans lesquelles ces demandes seraient examinées. La volonté, elle, est claire. Il s'agit d'empêcher l'arrivée de migrants en Europe par ce dispositif, mais également en renforçant, tout de l'on dit, les moyens de Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières extérieures de l'Union.
Alors Marie-Pierre, il a également été question aujourd'hui de ces fameux accords de Dublin. Où en est-on sur ces accords qui font porter toute la charge de l'asile sur le pays d'entrée en Europe et donc très souvent sur l'Italie?
Bien, Giuseppe Conte l'a dit très clairement, ces règles doivent changer. Ce n'est pas seulement l'intérêt de l'Italie, ajoute-t-il, mais aussi celui de l'Europe. L'Italie prépare sa propre proposition. Emmanuel Macron renchérit, l'Europe n'a pas été à la hauteur, il appelle à plus de solidarité avec l'Italie, mais comment? On en reste aux belles paroles, solidarité, responsabilité, efficacité, sans que rien de plus concret ne soit avancé sur ce sujet. Le président français a par ailleurs rappelé son souhait de réformer l'asile pour faire converger les systèmes européens. En clair, il ne veut plus voir les Afghans déboutés en Allemagne venir en France tenter leur chance.
Merci Marie-Pierre Véraud. Emmanuel Macron et Giuseppe Conte ont pu afficher leur proximité sur d'autres points et notamment sur la réforme de la zone euro. La France et l'Italie souhaitent par exemple qu'une décision soit prise au Conseil européen de juin prochain pour finaliser l'union bancaire de la zone euro. Une conduite rétrograde et déplacée des États-Unis en matière de commerce international. La condamnation, avec des mots choisis, vient de Pékin. Elle a été très rapide. Les autorités chinoises ont répliqué sans attendre cet après-midi à l'annonce américaine sur l'augmentation des droits de douane entre les deux pays. 25% de droits supplémentaires pour 50 milliards de dollars d'importation, notamment sur des produits technologiques. En miroir donc, Pékin annonce vouloir agir de la même façon, en rétorsion, tout en appelant les autres pays à une action collective contre les États-Unis. Bonsoir Pauline Simonet.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Washington pour France Culture. Ce nouvel épisode du conflit commercial entre Donald Trump et le reste du monde n'est pas vraiment une surprise, hein. Il était attendu.
Et effectivement, ce n'est pas une surprise. Donald Trump avait brandi la menace à plusieurs reprises. Et il y a eu de nombreuses négociations sur le dossier qui ont échoué. Finalement, cette guerre est bien enclenchée avec Pékin aussi. Donald Trump a validé une liste de produits chinois qui vont être taxés à 25% supplémentaires pour une valeur totale de 50 milliards de dollars. Des produits contenant des technologies très importantes dans les secteurs comme l'aérospatial, la robotique, les technologies automobiles. Mais ça, c'est important. Pourtant, les produits dont les Américains sont de très grands consommateurs, comme les téléphones ou les téléviseurs, ne seront pas visés. Alors, vous l'avez dit, Pékin a immédiatement menacé Washington de représailles sur les voitures, le bœuf ou encore le soja. Et là, pour ce dernier produit, ils ont joué colossal. Les États-Unis exportent un tiers de leur production de soja vers la Chine. Et en plus, les États producteurs de soja ont massivement voté pour Donald Trump. Alors, le président a prévu, si la Chine prenait des mesures de rétorsion, de nouveaux droits de douane seraient imposés.
Merci Pauline Simonet en direct de Washington. Il faut dire qu'on est loin des insultes et d'un climat de guerre commerciale. Donald Trump et son administration tentent de démontrer qu'ils appliquent leur programme électoral, mais ils restent relativement prudents par rapport aux Chinois. Écoutez l'analyse de Xavier Timbaud, le directeur de l'OFCE, sur les conséquences de ces annonces sur l'économie américaine.
Beaucoup des produits qui sont fabriqués en Chine aujourd'hui ne sont pas, n'ont pas d'équivalent fabriqué aux États-Unis. Or, on sait que dans ce cas-là, quand on met une taxe, ben, c'est le consommateur américain qui paye et il n'y a pas plus de production sur le territoire américain. Au final, il n'est pas du tout clair que les taxes que Donald Trump propose aient des effets positifs sur les États-Unis. Donald Trump ne peut pas compromettre complètement la relation avec la Chine et donc il est obligé de ne pas aller trop loin. Mais en même temps, il pousse vraiment à l'escalade, c'est-à-dire que là, il avait promis de mettre des taxes sur les importations chinoises, il avait donné un délai, donc on pensait que dans ce délai, des choses allaient se négocier et qu'au final, ça ne serait pas appliqué. Finalement, on s'aperçoit que ce soit avec l'Europe ou avec la Chine, ces menaces sont mises à exécution, et elles sont aujourd'hui mises à exécution concrètement et dans un calendrier qui devient très court et très resserré, et elles vont obliger l'Europe et la Chine à réagir à ces mesures-là. Or, les règles de l'OMC sont assez claires, et la Chine est dans l'OMC maintenant. Quand on vous impose des taxes sur 50 milliards de produits, bah, vous pouvez imposer des taxes comparables sur 50 milliards de produits que vous allez choisir vous-même, de façon à exercer une rétorsion égale à cette augmentation de taxes que vous subissez. On voit mal ce que Trump demande, en fait, finalement, à la Chine, à part accepter la taxation sans rien dire. Et donc ça va être difficilement acceptable pour les Chinois.
Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Il répondait à Hugo Chesinski. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce nouvel accès de fièvre autour de la question des droits de douane dans le cadre du conflit commercial en cours. Pour ce qui est de la question nord-coréenne maintenant, elle est réglée. Si on en croit Donald Trump et ses tweets, le président américain a indiqué tout à l'heure au réveil sur son profil Twitter avoir largement résolu le problème du nucléaire nord-coréen. Il parle d'une bonne alchimie entre lui et Kim Jong-un après leur rencontre cette semaine à Singapour et Donald Trump d'indiquer qu'il a donné un numéro direct au dictateur nord-coréen pour que les deux hommes puissent se joindre. Il va d'ailleurs l'appeler dès dimanche. Dernier vendredi et dernier jour du Ramadan aujourd'hui à Gaza où la tension est restée vive depuis la fin des manifestations en série pour le droit au retour. L'Aïd est l'occasion d'une nouvelle mobilisation. Des manifestants par milliers ont lancé des cerfs-volants enflammés dans le ciel sous le regard de notre correspondante à Gaza, Marie Semelin.
Sur la route vers le kibboutz de Mefalsim, une odeur de brûlé prend à la gorge. Le village est à 900 mètres de la bande de Gaza et on en distingue les immeubles. Les terres du kibboutz se sont partiellement brûlées et nos gagultes vivent dans la peur des incendies.
Vous voyez la fumée blanche là-bas? Ça, c'est un feu qui vient juste de démarrer. Dans 10 minutes, je vais recevoir un message me disant exactement ce qui s'est passé. Vous savez, quand un missile tombe, ça fait peur, mais l'alarme sonne et je vais dans un abri. Mais contre le feu, il n'y a rien à faire. Quand je conduis, au lieu de regarder la route, je passe mon temps à scruter le ciel pour voir s'il n'y a pas un cerf-volant ou un ballon qui arrive.
Un peu plus loin, au kibboutz de Nahal Oz, Dani Rahamim s'occupe de l'irrigation pour le village qui vit uniquement de l'agriculture et la récolte de blé est perdue.
Quand vous êtes fermier, vous travaillez très dur. Et quand vous arrivez et que vous voyez que tout est brûlé, c'est très difficile de décrire ce que je ressens. Il n'y a même pas de mots pour dire à quel point ça fait mal. Nous exhortons notre gouvernement d'ouvrir des négociations pour un accord avec le Hamas. Et je sais que la plupart des gens à Gaza veulent la même chose que nous, vivre en paix.
Les dégâts autour de Gaza sont évalués à plus de 2 millions d'euros par le gouvernement israélien, qui a déclaré ses cerfs-volants incendiaires activité terroriste, ouvrant ainsi la voie à une indemnisation pour les agriculteurs.
Reportage de Marie Semelin. En Inde, un assassinat de journaliste hier qui a marqué la population. C'est le rédacteur en chef de l'une des plus importantes publications de l'État du Cachemire qui a été tué hier soir dans la capitale de l'État. Sujat Bukhari était aussi le fondateur de la rédaction du Rising Cachemire. Il vivait depuis des années sous protection après une première tentative de meurtre. Son assassinat hier a été unanimement condamné en Inde et personne pour l'instant n'a revendiqué ce geste. Sébastien Farcy est le correspondant en Inde de RFI et de France Culture.
Franc et courageux, c'est ainsi que beaucoup le décrivent. Sujat Bukhari était le fondateur d'un groupe de 4 médias du Cachemire et dirigeait la rédaction anglophone du Rising Cachemire. Il était connu pour son combat en faveur de la paix dans lequel il osait critiquer tous les extrémistes, ce qui lui a peut-être coûté la vie. Il avait déjà échappé à une tentative de meurtre en 2002 et recevait depuis une protection policière, mais ses 2 gardes ont été abattus avec lui par les motards qui ont surgi devant son bureau. Comme en 2002, ce crime n'a pas été revendiqué, mais cela n'empêchera pas la rédaction de continuer sa lutte, comme l'affirme Rachid Makboul, l'un de ses collègues.
Quand nous faisions face à une situation délicate, je lui disais que nous devrions faire attention. Il souriait alors et me répondait que la mort était inévitable, que rien ne peut l'arrêter. Il était vraiment courageux. Au Cachemire, le danger est permanent. Nous affrontons cette violence depuis 30 ans et ce n'est pas ce crime qui va effrayer les journalistes. Il n'en est pas question.
11 journalistes ont été tués en Inde l'année dernière. Le pays figure à la 138e place dans le classement de la liberté de la presse.
Correspondance de Sébastien Farsi. Les forces yéménites soutenues par la coalition formée par l'Arabie Saoudite ont pris aujourd'hui le contrôle de l'aéroport d'Hudaïda. C'est ce qu'annonce à Reuters un habitant et 2 représentants de l'armée yéménite. Aujourd'hui, l'offensive en direction d'Hudaïda avait été lancée par les forces yéménites il y a maintenant 2 jours. En France, la démocratie a tranché et la CGT ne peut pas l'ignorer. Réaction du ministère des Transports tout à l'heure à propos et suite à l'annonce de la poursuite de la grève en juillet sur les rails français par la CGT Cheminots. La réforme ferroviaire est désormais adoptée. Elle s'appliquera, poursuit le ministère, pour qui c'est désormais un autre chantier qui doit être mené, comme si tout était réglé. Bonsoir Eva Jednak.
Bonsoir Benoît.
Aujourd'hui se tenait une réunion au ministère entre les syndicats, l'État et les entreprises du secteur ferroviaire autour de la question de la convention collective qui s'appliquera en remplacement du statut de cheminot qui est appelé à disparaître.
Oui, en réalité, les discussions ont commencé bien avant la réforme de la SNCF. Cela fait déjà 4 ans que les organisations, patronales d'un côté, syndicales de l'autre, négocient cette nouvelle convention collective. Elle regroupe l'ensemble des règles du droit du travail applicables au secteur du ferroviaire. Avec la loi sur la réforme du rail, les rencontres entre les partenaires sociaux s'étaient espacées ces derniers temps. Mais aujourd'hui, syndicats et patronats tentent de se remettre autour de la table sous la houlette du gouvernement. Le calendrier est serré, il ne leur reste que 18 mois pour se mettre d'accord. Les discussions devraient maintenant se dérouler en 2 temps. D'abord, en suivant le calendrier tel qu'il était prévu et le dossier resté en haut de la pile, le premier auquel les partenaires sociaux doivent s'atteler, c'est celui de la future grille de classification et de rémunération des métiers du rail. Ensuite, et c'est là que ça risque de coincer, ils vont s'attaquer aux négociations qui découlent de la nouvelle loi. Le sujet est sensible. On parle là, par exemple, de garanties de retour pour les cheminots transférés chez un opérateur privé ou encore toujours dans ce cas de figure du maintien de leurs droits sociaux. Dans un communiqué publié il y a 3 semaines, le patronat promet un cadre social moderne avec un haut niveau de protection pour les salariés. Mais il prévient, il ne sera pas calqué sur l'ancien statut des cheminots. C'est pourtant en substance ce que réclament les organisations syndicales. Un observatoire chargé du suivi de la négociation a été désigné pour veiller au bon déroulement des discussions. Il pourra alerter le gouvernement en cas de blocage, mais pour les cheminots, c'est insuffisant. Ils réclament à la ministre de jouer un rôle central pour peser dans les négociations contre le patronat.
Merci beaucoup, Eva Jednak. La fin des 35 heures pour les 3000 salariés de l'usine PSA de Vesoul à partir du mois de septembre prochain. Ils travailleront 37h45 chaque semaine et ils seront payés sur la base de 36 heures. Les trois syndicats majoritaires de l'entreprise, Force Ouvrière, la CFE-CGC et la CFTC, ont signé aujourd'hui un accord en ce sens, accord qui était proposé par la direction avec, pour contrepartie, la promesse de 80 embauches sur 3 ans et le rapatriement de l'activité Opel sur Vesoul. Écoutez quelques réactions de salariés partagés sur cet accord et sur la signature de cet accord au micro de Florian Cazzola de France Bleu Besançon.
On nous donne pas trop le choix, c'est ça où la sous-traitance prendra le relais.
Cet accord, c'est le travail de demain pour nous, donc il fallait quand même faire quelque chose pour être compétitif au niveau des magasins pièces de rechange.
Si l'entreprise irait vraiment mal, faire un effort, d'accord, bon, je veux bien, mais vu les bénéfices qui sont engendrés à leur jour d'aujourd'hui, je trouve pas ça normal de presser les gens un peu plus, quoi.
Faire des heures en plus pour pas d'argent, c'est pas normal. On va perdre de l'argent en faisant garder les enfants tous les soirs, ou pour les gens qui travaillent d'équipe, ça peut être des journées complètes. Donc à la fin du mois, on va perdre de l'argent quand même.
Alors, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Le site de Vesoul ne rapporte pas d'argent, alors que pendant des années, ça a été le contraire. On a sauvé peut-être le groupe à une époque, et aujourd'hui, on n'a pas de retour.
Les actionnaires de Renault ont approuvé tout à l'heure à une courte majorité la rémunération pour l'année 2017 du PDG du groupe, Carlos Ghosn. Cette rémunération est de 7,4 millions d'euros. La vitesse maximale autorisée sur les routes nationales et départementales françaises sera bien réduite à 80 km/h à compter du 1er juillet. Le Premier ministre Édouard Philippe a signé tout à l'heure le décret officialisant cette mesure. Il sera publié dimanche au JO. Les défaillances techniques et technologiques au sein de l'armée française, c'est le sujet de l'enquête de cette édition. Enquête sur de mystérieux bugs de missiles. Bonsoir Nathalie Hernandez.
Bonsoir Benoît.
Il y a deux mois, la France, aux côtés des États-Unis et de la Grande-Bretagne, bombardait en Syrie plusieurs sites abritant des armes chimiques. Une intervention française qui a connu quelques déboires, quelques ratés. Des déboires sur lesquels vous avez enquêté, Nathalie.
Il faut le rappeler, Benoît, les trois pays voulaient donner un coup d'arrêt à l'utilisation par le régime syrien d'armes chimiques contre son peuple, dont acte, dans la nuit du 13 au 14 avril dernier, trois sites de fabrication et de stockage près de Damas et de Homs sont bombardés. La France et sa ministre des Armées se félicitent de cette opération Hamilton. Tous les missiles français sont parvenus à leur objectif. Au total, 12 missiles sont tirés, 3 par les 3 frégates positionnées en Méditerranée et 9 par les 5 avions de combat Rafale. Sauf que quelques jours plus tard, le site spécialisé La Lettre A révèle qu'il y a eu des aléas techniques. 2 des frégates n'ont pas pu tirer les 8 missiles de croisière prévus, comme nous le confirme aujourd'hui Jean-Marc Tanguy, grand reporter au magazine Red.
Là, il va se passer quelque chose qui n'arrive quasiment jamais à la guerre. C'est-à-dire que la première frégate qui doit délivrer cette arme connaît manifestement quelque chose qui s'apparente à un bug informatique, donc ne peut pas tirer. La deuxième, elle, a un problème qui semble plus lié cette fois au missile lui-même, c'est-à-dire il fait long feu, il ne part pas. Et là, le dernier recours, si on peut dire, c'est la troisième frégate qui tirera effectivement 3 missiles, les 3 qu'elle a à bord. Et donc c'est la frégate Languedoc qui s'en charge.
Dans les airs aussi, il y a eu quelques soucis. L'un des Rafales n'a pas pu délivrer l'un de ses missiles, faute de garantie nécessaire. Le pilote a donc préféré le désarmer et le larguer en mer.
Est-ce qu'il y a eu des justifications des autorités face à ces aléas techniques, Nathalie ?
Non, pas de commentaires. Personne n'a non plus souhaité donner suite à nos demandes d'interview. Quant à la ministre Florence Parly, elle a invoqué le secret défense, une position qui n'est pas totalement partagée par le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air.
Pour moi, le secret défense, il s'impose dans des domaines qui mettent en jeu d'abord la vie des personnels, ensuite des caractéristiques techniques qu'on ne veut pas dévoiler. D'un autre côté, il faut aussi faire comprendre à chacun que la guerre, c'est compliqué, qu'il peut arriver qu'il y ait des aléas. Je pense qu'il faut aussi avoir cette liberté de parole. On a une expérience opérationnelle, on va s'en servir. et on va améliorer les choses.
Alors, autre question qui se pose, Nathalie, suite à cette affaire, c'est de savoir si un jour on saura ce qui s'est réellement passé.
En tout cas, ce sera indispensable. C'est d'abord une question de fiabilité à l'égard des militaires qui utilisent ce système. Ensuite, si la France veut vendre ses missiles dernière génération qui valent 1 million d'euros pièce, il faudra rassurer ses potentiels acheteurs. C'est ce qu'estime le chercheur Corentin Brucelin de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
Ça peut poser un problème parce que la crédibilité technique et opérationnelle d'un système est évidemment importante pour convaincre des acheteurs potentiels. On a vu dans le cas du Rafale que le fait qu'il ait été testé avec efficacité en opération, ça a démontré aux yeux de tout le monde sa valeur opérationnelle, voire stratégique. Là, évidemment, ça brouille le message. Ça peut expliquer une certaine réticence à communiquer autour des résultats du tir de Syrie.
Toujours est-il que les parlementaires attendent eux aussi des réponses. Le député de la France Insoumise, Bastien Lachaud, a demandé l'audition en commission de la ministre à l'Assemblée. Eh bien, cette audition aura lieu le 27 juin prochain.
Merci Nathalie Hernandez. Votre enquête est à retrouver en longueur sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Cette dernière information en provenance de Washington. Avant de refermer ce journal, Paul Manafort, ex-chef de la campagne présidentielle de Donald Trump, a été placé en détention jusqu'à la tenue de son procès à venir, décision prise pour éviter que Paul Manafort n'influence des témoins. La météo, un temps à nouveau nuageux, gris et humide demain sur la métropole, annonce Météo France. De petites pluies sont attendues en cours de journée sur l'ensemble des régions, des Pyrénées jusqu'aux régions du Nord, en passant par le Massif central et le Périgord. Les températures minimales seront comprises au lever du jour entre 9 et 15 degrés, maximales de 17 à 26.